Bienvenue à toi sur le podcast des nouvelles aventurières. Ce sont des femmes de tout âge et de tout horizon qui ont décidé de faire de leur vie une aventure à travers leur métier, leur passion ou leur défi personnel. Elles nous inspirent et nous prouvent qu'aujourd'hui, tout est possible. Elles ont choisi une vie hors du commun et nous racontent ici leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Du rêve à la réalité, découvre les coulisses de l'état d'esprit de ces femmes actuelles, les nouvelles aventurières. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège d'accueillir Isabelle Trava. Donc, comment vas-tu ?
Ça va, bonjour.
Tu es très connue dans le monde du chien de traîneau car tu leur as dédié ta vie et ton métier. Donc, tu es éleveuse de husky sibérienne depuis 35 ans et tu es aussi meucheuse professionnelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un meucheur, c'est un conducteur de traîneau à chien. Donc, il y en a dans le tourisme, dans les courses ou juste pour le plaisir. En fait, c'est un sport et une passion. Toi, tu as choisi d'évoluer dans le monde des courses et c'était plutôt bien réussi puisque tu as cumulé les grands titres. Tu as été 12 fois championne de France, 3 fois championne d'Europe et depuis 2020, tu détiens le titre de championne du monde de longue distance. Alors, avant de rentrer dans le détail des courses, est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours ? Comment tu es devenue meucheuse professionnelle ? Est-ce que tu as toujours grandi dans cet univers ?
Alors, pas du tout. Moi, j'étais en région parisienne, mais par contre, j'étais passionnée par la montagne, la neige, les chiens de traîneau. J'ai lu les livres de Jack London quand j'étais jeune et je rêvais à travers ça. Et j'ai voulu partir vivre à la montagne après mes études. Donc, je suis partie enseigner le ski et l'équitation à la montagne. Et puis, je me suis lancée pour le mushing. J'ai décidé de me lancer comme éleveur. Donc, j'ai acheté mes premiers huskies. Et je me suis installée, évidemment, il fallait en vivre, il fallait être professionnelle. Donc, au début, j'ai fait une pension. Donc, je suis revenue pas très loin de Paris pour pouvoir avoir de la clientèle et vivre de ma passion, qui était les chiens et l'élevage, et principalement l'élevage des chiens de traîneau. Et je me suis lancée dans le mushing toute seule. Alors, j'avais la chance quand même d'être skieuse et ça m'a aidée au début pour mes premières courses, pour l'équilibre. Mais voilà, je me suis faite toute seule.
Tu as commencé à quel âge ?
J'ai commencé les courses ma première course en 85, donc j'avais 23 ans. Mais manque de chance, j'ai eu un grave accident de voiture quelques mois après. Qui m'a immobilisé de longs mois. J'ai dû être réopérée, donc ça m'a empêché de reprendre mon sport pendant 3 ans. Et j'ai vraiment réellement commencé la compétition en 90.
Alors, les chiens de traîneau, ça fait rêver beaucoup de monde. On s'imagine les beaux skis dans la neige à travers les paysages sublimes, ce qui est vrai. Mais c'est aussi une vraie discipline sportive qui peut devenir extrême. Il faut gérer une équipe de chiens athlétiques qui ont un fort caractère et qui sont hyper puissants. Tout en connaissant bien le terrain et être capable de gérer tout imprévu dans un environnement qui est souvent hostile, donc qui est froid. On le rappelle, ça peut aller jusqu'à moins 50 dans la neige. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton métier ?
Le plus difficile, je dirais que c'est très très prenant. C'est un mode de vie de faire du mushing. Et donc quand on a une famille, il faut que la famille participe, en tout cas soit motivée aussi par ça. Sinon c'est vite compliqué. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré mon mari, moi, qui était mon vétérinaire, et je lui ai fait découvrir les chiens de traîneau, parce que lui était vétérinaire, mais pas spécialement branché mushing. Par chance énorme, il a aimé ce sport aussi, la montagne, on a déménagé ensemble pour la montagne, mais c'est vrai que le plus important, c'est vrai que ça doit être un peu une histoire de famille. Sinon, j'ai connu beaucoup de mushers et quand le conjoint n'était pas passionné, en général, ça durait pas et ça se terminait par des séparations. Ou d'autres anecdotes, c'est que j'ai connu aussi des mushers qui abandonnaient leur sport, leur passion pour leur conjoint. Et finalement, ils craquaient et quelques années plus tard, je l'ai retrouvé divorcé, mais avec de nouveau des chiens. Donc, c'est une passion très prenante et qui doit faire partie de la famille. Donc, ça, c'est vrai, c'est le plus compliqué, c'est ça, c'est que c'est un mode de vie.
D'ailleurs, ça m'amène à une question. On dit souvent qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes pour réaliser ses rêves. Est-ce que tu es d'accord ?
C'est sûr que ça aide énormément. Moi, la vie a fait que j'ai eu la chance que Philippe, mon mari, participe avec moi aux courses et aux entraînements. Il a même couru pendant des années. Après, il en avait un petit peu assez. Moi, j'ai voulu continuer, mais bon, on a trouvé un compromis. Et puis, il est toujours là pour les grands événements, même s'il court plus maintenant. Et c'est une aide énorme. Et puis, les enfants aussi sont très impliqués. Donc, c'est vrai que c'est une affaire de famille. Et c'est important. C'est important d'avoir le soutien familial parce que c'est un sport qui est quand même difficile aussi, surtout la longue distance.
Quelles sont, selon toi, les qualités et compétences pour être un bon musher ?
Alors, un bon musher, avant tout, c'est quelqu'un qui est calme. Calme, pas stressé. On gère une meute de chiens qui sont des individus, donc c'est une équipe, et qui sont des êtres sensibles. Quand on fait des compétitions, eux, ils savent pas forcément que le jour J, ben justement, il faut être au top, c'est la compétition. Eux, ils courent, ils se font plaisir. Et ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un coach qui est en fait le musher, qui les rassure. Ça, c'est très important et qui en même temps les manage. Donc, il faut être assez ferme, mais il faut être aussi très proche d'eux et surtout pas être stressé. Surtout sur les courses longues, les courses de longue distance, dans des conditions difficiles, quand on commence à être dans une tempête, que tout va mal, ben, il faut toujours garder la tête froide. Donc, il faut être calme et pas stressé.
Donc pour repréciser, les courses et le tourisme, c'est bien deux choses très différentes. Les tours proposés dans le tourisme, c'est ludique, c'est bien encadré, avec des chiens habitués à emmener des touristes qui sont inexpérimentés. Mais toi Isabelle, c'est pas du tout le monde dans lequel tu travailles. Être musher professionnel dans les courses, c'est un peu comme être un athlète de haut niveau qui s'entraîne pour participer à des compétitions et pour devenir un champion olympique. C'est quoi toi ton objectif? Qu'est-ce qui te motive à faire des courses?
Alors moi, j'aime la compétition par-dessus tout. Je n'ai pas une âme de randonneur. Je l'ai fait de temps en temps, mais j'aime vraiment la compétition, le challenge. Il faut savoir que les chiens qu'on utilise pour faire de la compétition, c'est de la sélection hein, sur les meilleurs individus. Moi, ça fait 35 ans que je fais de l'élevage et que je sélectionne les meilleurs chiens. Donc, ça n'a rien à voir avec les chiens de tourisme. C'est comme, on va dire, par exemple, le cheval de rando cool et le pur sang anglais de course sur les hippodromes. Nous, c'est des pur sang. C'est des chiens qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains parce que c'est des chiens qui sont hyper speed, qui en veulent. On a travaillé la sélection pour ça et c'est des chiens qui ont beaucoup de tempérament. Alors, ils ont un fort caractère parce que pour tenir dans les conditions difficiles, notamment dans la longue distance, et il faut des chiens qui aient un fort caractère. Et c'est vrai que ce que j'aime dans la compétition, c'est le challenge, c'est le partage avec mes chiens dans les conditions difficiles. J'aime bien quand c'est difficile. Et puis le dépassement de soi. Et c'est vrai que il y a qu'en compétition que vraiment on a le dépassement de soi. Quand on fait une expédition, des randos, on peut être dans des conditions difficiles, mais on prend le temps. C'est pas du tout pareil. Quand c'est la compétition, on va au bout de soi. Et c'est ce que j'aime bien.
Et c'est ça qui te fait vibrer le plus dans cette activité, qui est aussi ton métier, ton sport et ta passion?
Alors, ça me fait beaucoup vibrer, effectivement, le dépassement de soi. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que quand on est dans des conditions comme ça extrêmes, dans des tempêtes et qu'il fait moins 40, moins 50, qu'on n'en peut plus, on se dit on est fou, on se dit plus jamais. Et puis, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on finit la course, on a dit bon, on ne la refera jamais, et puis le temps passe, et puis on regarde les photos et on dit voilà, ces moments-là, en fait, on vibre et on a envie de les retrouver. Donc, c'est assez marrant, on doit être un petit peu maso aussi pour faire ça. Et puis ce que j'aime aussi dans la compétition avec les chiens, c'est le partage avec les chiens et d'arriver à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est tout un travail, notamment avec les huskies de Sibérie, qui sont des chiens qui sont assez proches du loup, donc avec un tempérament assez indépendant et ils font un petit peu à leur tête. Et ce que j'aime beaucoup quand je travaille avec des huskies et que je les pousse à se dépasser, c'est tout ce côté relationnel qu'on a ensemble. Et ça, c'est pour moi une énorme satisfaction quand je vois les chiens que j'ai se donner comme ils font sur les courses. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de gratification et de plaisir, de la communication et la complicité qu'on a avec nos chiens.
Et justement, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est aussi de comprendre les secrets de ton état d'esprit. C'est quoi le mindset du champion, surtout quand c'est dur, que tu galères et que t'en peux plus? À quoi tu penses?
Eh bien, il faut toujours faut être positif. Il faut dire que quand c'est très dur... Enfin, moi dans ma tête, mon état d'esprit, c'est que rien n'est impossible. On peut toujours arriver. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Et quand on veut arriver au bout d'une course, on se donne les moyens. Je crois que la volonté, c'est vraiment l'essence même de pour réussir ce genre de sport, surtout la longue distance qui est vraiment différente, parce que on va vraiment, on puise vraiment dans notre dernier retranchement, au fond de nos possibilités. Et donc c'est ça, c'est la positivité, l'acharnement, la volonté. Enfin, c'est la volonté avant tout.
Donc toi, tu as participé aux courses les plus difficiles du monde, comme la Finnmarksløpet et la Femundløpet en Norvège. Il y a eu aussi la Grande Odyssée dans les Alpes à plusieurs reprises. Tu as également été en Alaska pour participer à la Yukon Quest. Et en 2015, tu as participé à l'Iditarod, qui est la course ultime et le rêve de ta vie. Tu veux bien nous expliquer les différences entre toutes ces courses?
Oui, alors il faut faire une petite différence entre effectivement la Grande Odyssée, qui est une course à étapes, qui est une course tout à fait différente des autres que tu as citées, Finnmarks, Femund, Iditarod, qui sont des courses de longue distance. Alors la Grande Odyssée qui se déroule en France, c'est une course à étapes, mais qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. À l'époque où je la faisais, maintenant c'est un peu réduit, mais on avait 25 000 mètres de dénivelé positif en 10 jours. Avec 800 km. Donc c'est une course très très physique et il fallait être très entraîné physiquement, le musher aussi, parce que on avait des montées très raides où il fallait courir, aider les chiens, courir sans arrêt. Après, les descentes étaient extrêmement techniques, pareil, il fallait vraiment être très aguerri. Mais par contre, quand l'étape était terminée, on avait l'aide des handlers, on pouvait se reposer, récupérer, les chiens aussi. Donc c'est tout à fait différent, c'est plus sportif, on va dire. Donc il fallait vraiment avoir une bonne condition physique, le musher aussi, sportive, et les chiens évidemment aussi. La longue distance, c'est encore tout autre chose, parce que en fait, la longue distance, le chronomètre part au départ de la course et ne s'arrête que sur la ligne d'arrivée. Et pendant toute la durée de la course, on gère nos repos au checkpoint, comme on veut. On a des temps de repos obligatoires qui sont définis, mais après, qui sont obligatoires et définis, mais après, les autres repos, on les gère en fonction de la course, en fonction de nos chiens, en fonction de notre état. Et on n'a le droit à aucune aide. C'est-à-dire que, par exemple, sur une Iditarod où moi j'ai mis 12 jours, on dort pratiquement pas. On dort par série de 2 heures, 3 heures par-ci, par-là. Et donc c'est très très difficile. Et ce qu'il y a surtout, c'est que sur les courses de longue distance, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est les chiens avant tout. Nous, on passe après. Donc, il faut être capable de se malmener, on va dire, c'est-à-dire pas de penser à nous, de penser toujours qu'aux chiens, au bien-être des chiens. Quand on s'arrête au checkpoint, on est complètement crevé. Il n'est pas question d'aller boire un coup et se reposer. Non, on s'occupe des chiens avant tout. On les nourrit, on les masse, on leur enlève les bottines. Et on est des zombies, mais on ne pense que au bien-être des chiens, parce que c'est quand même eux qui courent. Et nous, on passe, on va dire, bien après. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est que on se malmène beaucoup sur ce genre de course. On va vraiment au bout de la fatigue, du froid, de la déshydratation, parce que tout devient difficile. Et c'est ce qui est compliqué dans la longue distance et qui en fait que c'est vraiment des épreuves extrêmes.
Comment tu te prépares pour des courses comme ça?
Alors, pour je disais, pour la grande odyssée, je me préparais donc vraiment physiquement, en faisant beaucoup de montagnes, de montées de col, de VTT. Je faisais pas beaucoup de course à pied parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé, d'opérations de la colonne vertébrale. Donc, je faisais plutôt du VTT et de la marche en altitude raide. Des montées raides. Par contre, pour la longue distance, l'entraînement est tellement prenant, on entraîne tellement dans des conditions de course, la nuit, à toute heure du jour et de la nuit, le froid, on fait des bivouacs, que, en fait, on se prépare en même temps que les chiens pendant l'entraînement. On n'a pas un entraînement séparé que celui qu'on fait avec les chiens, d'autant plus qu'on entraîne tellement que ça nous prend tout notre temps.
Quel est ton pire souvenir de course ?
Mon pire souvenir, j'en ai quelques-uns, mais le pire, je crois, ça a été quand j'ai fait l'Iditarod, et que au bout de 700 km, les chiens avaient marché très très bien jusque-là, et puis il faisait un froid terrible, c'était une étape de 80 km toute la nuit, il faisait moins 45. Sur la fin de l'étape, il y a un mouchard avec des Alaskans qui m'a doublé. Je l'ai tenu un moment avec un certain rythme. Et puis tout d'un coup, les chiens se sont arrêtés. Ils avaient très froid. Et on avait bivouaqué sur l'étape d'avant, sur le Yukon, en plein vent. Je n'avais pas trouvé d'endroit abrité. Donc les chiens n'avaient pas dormi. On s'est arrêté 5 heures parce que les chiens devaient se reposer. Et en fait, comme ils n'avaient pas dormi, il faisait très froid, ils se sont arrêtés là sur la piste. Ils n'ont plus voulu avancer, mais plus du tout. Ils se sont couchés comme ça au petit matin, alors que j'étais à 8 km du checkpoint. Mais évidemment, là, c'est des chiens, tu ne peux pas leur dire « Non, mais arrêtez les gars, le checkpoint il est dans 8 km, on arrive. »
C'est rageant.
Et ça a été horrible parce que... En fait, donc, tous les mâchards que j'avais doublés sont passés les uns après les autres. Enfin, pas tous, mais une bonne partie. Ils me disaient « ça va, tu veux qu'on t'aide ?» Et il faisait moins 45, on était sur le Yukon. Et les chiens, je les levais, ils se recouchaient. J'avais 16 chiens, donc je levais les premiers. Et quand j'arrivais au suivant, les premiers s'étaient recouchés. Impossible de les... Et là, j'ai eu un gros coup au moral parce que... Tous les sacrifices que j'avais faits d'argent, de temps, avec la famille pour organiser cette course, parce que pour nous qui sommes en France, aller courir là-bas en Alaska avec les chiens, c'est des sacrifices énormes. Et puis il y avait mon frère qui était venu, qui est cinéaste professionnel, qui était venu faire un film, qui m'attendait au checkpoint avec Philippe, mon mari. J'avais tous les gens qui m'avaient, qui me suivaient sur Facebook et qui m'avaient aussi un peu sponsorisé en donnant un petit peu de sous pour les chiens qu'ils aimaient bien. Et je pensais à tous ces gens qui me suivaient. Je pensais au film, à mon frère, à mon mari, à la famille. Et je me disais tout ça, je disais tous ces sacrifices que chacun a fait pour que j'arrive sur cette course. Et là, tout ça, ça va être foutu au bout de 700 km parce que les chiens, je me voyais abandonner, quoi. Je me disais, c'est foutu, quoi. Et là, j'étais assise sur mon traîneau, je pleurais, puis en regardant mes chiens qui étaient couchés, j'étais au bout de ma vie. Et puis finalement, je me suis ressaisie, j'ai attendu, je suis restée quand même arrêtée 8 heures à 8 km ouais. Du checkpoint. Et puis les chiens, ils sont repartis. Et quand je suis arrivée au checkpoint, le gars du checkpoint, j'étais vraiment le moral dans les chaussettes. Il était sympa. Il m'a dit, t'inquiète, tous les mushers d'Alaska, ça leur est déjà arrivé. Tes chiens, ils partiront.
Ouais, c'est ça.
Et voilà. Mais c'était un dur moment.
Quel est ton plus beau souvenir de course ?
Mon plus beau souvenir, j'ai plein de souvenirs merveilleux avec mes chiens sur les courses. Mais je crois que mon plus beau souvenir, c'est l'arrivée de l'Iditarod aussi. Parce que j'en avais rêvé toute ma vie. J'ai eu ce moment où je pensais justement que les chiens repartiraient pas. Ils sont repartis et de plus belle et très très bien. Et je me rappelle quand je suis arrivée à Nome, donc au bout de 1600 km et au bout de 12 jours de nuit, et il était 2h du matin, les chiens galopaient sur la banquise. Et il y avait des aurores boréales dans tous les sens. C'était complètement féerique. C'était fabuleux. Et Voilà, c'était un très très grand moment pour moi parce que j'avais réussi, enfin la boucle était bouclée, j'avais réussi à faire tout ce dont j'avais rêvé toute ma vie et grâce à mes petits chiens qui étaient tous nés à la maison et qui m'avaient rendu ce grand bonheur, rendu heureuse ce jour-là. Voilà.
D'ailleurs, je précise que pour ceux qui voudraient voir, ton frère a donc réalisé un film sur cette course, sur toi. Vous pouvez acheter ce DVD sur ta page Facebook, donc Isabelle Travadon Athlète.
Oui, il y a un petit onglet et il y a un film donc, sur Lily Taron et puis aussi un film sur un de mes chiens de tête, Dallas.
Très bien.
Qui est un peu le pilier de mon élevage. Voilà.
D'ailleurs, j'ai vu les deux films, je vous les conseille grandement. Très, très inspirant. Est-ce que le fait d'être une femme t'a déjà posé problème pour les courses ou pour devenir championne ? Parce que je précise que c'est une pratique mixte. Est-ce que tu aurais des exemples ou pas à nous partager ?
Oui, alors d'être une femme, c'est effectivement pas quelquefois un handicap par rapport à la force physique. Parce qu'on a un attelage qui est puissant. Sur les grandes courses, on a entre 12, 14, 16 chiens. Donc une très, très grosse puissance. Quand on tombe quelquefois... je suis tombée sur la Yukon Quest, sur la glace, on se fait traîner. Parce qu'en plus, je ne suis pas hyper lourde, je ne suis pas très grande. Donc par rapport à un homme costaud et plus lourd, j'ai beaucoup moins de force pour manier les chiens. Notamment, alors par exemple, c'est sur la Grande Odyssée, dans les descentes très raides, je sautais à pieds joints sur mon frein, j'arrivais pas à freiner les chiens allaient à toute allure, et j'étais trop légère, j'arrivais pas à les freiner, et je doublais tout le monde, tous les gars et tout, et je sautais sur mon frein, et j'arrivais pas à les freiner. Autre chose, par exemple, il m'est arrivé de tomber dans des ponts de neige qui s'effondraient sur des ruisseaux, et de tomber au fond d'un ruisseau avec des berges très raides et mon traîneau complètement bourré, hyper lourd, et de ne pas arriver à le ressortir, alors qu'un gars costaud, il arrivait à aider les chiens pour ressortir. Et il m'est arrivé une ou deux fois comme ça, au fond des ruisseaux, de devoir vider mon traîneau pour l'alléger, pour sortir. Donc,
voilà. T'as besoin de plus t'adapter.
Oui, c'est quelquefois un peu compliqué le fait qu'on soit une femme par rapport à cette puissance qu'on a devant nous. Après, je pense qu'on a un atout sur les hommes aussi, c'est peut-être un peu plus de sensibilité avec nos chiens, notamment avec les huskies, que les hommes, peut-être un peu plus dans le relationnel, un peu plus de sensibilité.
Et par rapport au comportement humain, est-ce que tu as senti, par exemple, les hommes, que ça dérangeait que tu sois championne ?
Oui, ça se sent bien. Ça dépend, il y en a pas du tout, mais il y en a, notamment là quand j'étais championne du monde là, en 2020, devant un Norvégien de 35 ans qui gagnait tout depuis longtemps, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu du tout, ça se voyait. Mais bon, sinon, en règle générale, ça va. Mais il y en a quelques-uns qui ça plaît pas trop.
Quelles sont les trois leçons de vie les plus importantes que tu aimerais partager avec nous ?
Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut pas rêver ses rêves, mais il faut les vivre. Ça, c'est important. Quand on dit oui, évidemment, faut vivre ses rêves, mais enfin, c'est pas toujours évident. Faut pouvoir. Je dis non. Quand on veut, on peut. Et c'est pas forcément une question d'argent, c'est pas une question de temps. C'est si on veut, on peut trouver les moyens d'arriver à ses fins et de vivre ses rêves. Mais il faut y croire, il faut toujours y croire, et aussi il faut pas remettre les choses, faut pas dire non mais ça j'ai envie de le faire mais je ferai plus tard ou je ferai, il faut y aller parce que le temps passe très vite, la vie passe très vite, et il faut foncer quand on a des rêves, quand on a la chance d'avoir des passions et des rêves, il faut se donner les moyens de les vivre.
Tu aurais une dernière petite leçon que tu aurais apprise au cours de ta carrière ?
J'ai souvent eu des coups durs. Et je pense que les coups durs, ça forge et ça rend plus fort. Il ne faut pas se décourager quand on a des pépins. Moi, j'ai eu pas mal de pépins de santé, d'accidents. J'ai eu 17 opérations, donc dans tous les sens. Plein de fois, on m'a dit, notamment médecin, faut arrêter, faut vous calmer. Et non. Et moi, je me dis, au contraire, à chaque fois que j'ai été immobilisée un moment, je me dis, oh là là, là, je vais pouvoir refaire des trucs, je vais en faire deux fois plus, parce que j'en profite. Parce que, voilà, et c'est ça, savoir que les coups durs, ben, ça rend plus fort. Et juste une petite anecdote auquel je pense, qui illustre bien ça, c'est que l'année dernière, j'ai acheté un cheval, Silky, que tu connais, à un monsieur. Et l'année dernière, je venais de me faire opérer de deux prothèses de genoux en même temps. Et donc, j'étais encore en convalescence. Donc, c'est une copine, je ne pouvais même pas monter à cheval. Ça faisait un mois et demi que j'étais opérée. Donc, encore bien boiteuse. Et je vais voir ce cheval, une copine qui l'essaye. Et le monsieur qui le vendait, il me dit ben voilà, je vends mon cheval, j'aime beaucoup, j'adore l'équitation, la rando, mais bon, j'ai mal à un genou. On va m'opérer on va me mettre une prothèse de genou, donc j'arrête de monter à cheval. Ce à quoi j'ai répondu, ah bon, mais vous savez, c'est dommage, parce que moi, je viens de me faire opérer des deux genoux et deux prothèses, et je remonte à cheval dans un mois.
Génial.
Voilà. Donc, c'est ça un peu, je pense qu'il faut toujours aller de l'avant.
Merci beaucoup pour ces conseils. La petite question bonus qui va clôturer cette interview. Si tu avais choisi une autre voie professionnelle, tu aurais fait quoi ?
Alors, j'aurais beaucoup aimé faire de l'endurance à cheval, à haut niveau. J'en ai fait de l'endurance, mais on ne peut pas tout faire. Et j'en ai fait en tant qu'amateur, mais j'aime beaucoup aussi, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on fait avec les chiens, hein. L'endurance à cheval. Et puis, autre chose que je pense j'aurais fait, et peut-être je ferai plus tard quand je serai très vieille, qui me tenait beaucoup à cœur. J'aurais aimé créer un sanctuaire pour sauver les animaux de cirque, les animaux qui sont abusés de partout, qui sont enchaînés. Faire un sanctuaire pour les sauver. Et j'ai toujours pensé à ça et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire et que je ferai peut-être un jour plus tard.
Donc tu restes une grande amoureuse des animaux.
Ah oui, absolument.
Merci beaucoup Isabelle. Si vous voulez suivre ses aventures, vous pouvez aller sur la page Facebook Isabelle Travadon, où tu as aussi un compte Instagram et un site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir et la suivre. Je te remercie vraiment infiniment. Tu es la première invitée de ce podcast. C'est un grand honneur.
Merci.
J'espère que cet épisode t'a inspiré, que tu as appris des choses et que tu as plein de motivation pour aller vivre tes rêves et faire de ta vie une aventure. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour m'aider à inspirer le plus de monde possible. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram avec @adventuresway. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et de nouvelles aventures.